Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, lancement officiel hier à Kinshasa par le chef de l'État de la campagne de vulgarisation de la loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en RDC. Félix Tshisekedi appelle à cet effet les acteurs tant publics que privés à la mise en œuvre des mesures d'application de cette loi. Processus électoral en RDC. Le comité laïque des coordinations s'est dit préoccupé par la persistance de l'insécurité dans l'est du pays et la misère sociale qui expose les populations aux candidats les plus offrants. Le CLC félicite la CENI et la Cour constitutionnelle pour le travail abattu et les invite à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus. Le rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC est l'invité de ce journal. Serge Njibungoi a fini sa mission de vulgariser les directives sur la campagne électorale et le code des bonnes conduites en période électorale dans la province du Maniema. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle les acteurs tant publics que privés à la mise en œuvre des mesures d'application de la loi organique du 3 mai 2022 portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en RDC. Appel lancé hier, ici à Kinshasa, lors de la cérémonie du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de cette loi et du vernissage du premier dictionnaire congolais de la langue des signes. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait sélectionné par Paul Matindo.
Bien que ces progrès viennent conforter cet engagement à la fois personnel et politique, puisque traitant du respect du principe d'égalité nous transcendant collectivement, il demeure néanmoins de garder à l'esprit les nombreux défis, notamment ceux relatifs à la gouvernance du secteur portant sur la question du handicap, qu'il demeure de relever pour réenchanter le vécu des populations concernées. C'est pour cela que j'en appelle à l'implication de tous les acteurs, aussi bien publics que privés, à la mise en œuvre, chacun en ce qui le concerne, de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivante avec handicap en République démocratique du Congo.
Et puis, le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC sollicite dans un mémorandum publié vendredi et adressé au président de la République son implication pour sauver la vie de Salomon Idika Londa qui est en danger. Cette structure affirme que la santé du conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi se détériore de plus en plus et le pire risque d'arriver. Cela, ajoute les coordonnateurs de ce consortium, va ternir l'image de la justice congolaise en particulier et du pays en général. On écoute Dieudonné Mushagalusa au micro.
Nous avons remarqué tout ce qui n'a pas été en mesure de comparaître à l'audience d'hier parce que son état de santé se détériore de plus en plus au regard de certains rapports d'une part présentés par les médecins de l'unité hospitalière de Ndolo, mais aussi de l'autre part ce qui a été fait comme contre-expertise avec plus de 19 médecins venus des hôpitaux publics de l'État. Et au final, il y a le rapport de son médecin traitant qui a confirmé qu'il y a risque qu'il puisse faire un AVC. Alors nous avons décidé de nous adresser au président de la République avant que le pire n'arrive, qu'il puisse dans ses prérogatives constitutionnelles, mais aussi comme père de la nation, étant donné que depuis son combat politique, il n'a jamais cessé de mettre l'homme au centre de tout, pour qu'on puisse faire bénéficier à Salomon Idika Londa les mêmes conditions pour qu'il puisse accéder aux soins appropriés.
Comme annonce au sommaire, à quelques semaines des élections, le comité laïque des coordinations s'est dit préoccupé par la persistance de l'insécurité dans l'est du pays et la misère sociale qui expose les populations aux candidats les plus offrants. Le CLC l'a déclaré hier au cours d'une conférence de presse ici à Kinshasa. Par ailleurs, cette structure de l'Église catholique félicite la CENI et la Cour constitutionnelle pour le travail abattu. Elle dit souhaiter que ces signaux positifs émis par ces deux institutions puissent se poursuivre jusqu'à la fin du processus électoral. On écoute les explications de Maître Emery Lukombo, porte-parole du CLC au micro d'Alain Rung.
Laisser ces demeures préoccupées par la persistance de l'insécurité dans plusieurs régions du pays et par la recrudescence de la misère sociale accentuée ces derniers temps par la hausse des prix des produits de première nécessité. À ces comptes-là, les futurs électeurs risqueraient d'être prisonniers des candidats les plus offrants pour les besoins de résoudre leurs problèmes de subsistance au quotidien. Raison pour laquelle le CLC insiste pour que les préoccupations électorales n'occultent pas totalement les besoins vitaux de notre population, encore et toujours en proie à des violences multiples, des injustices inacceptables et une précarité encore plus importante auxquelles il faut faire face.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, des enfants membres du Parlement d'enfants du territoire de Beni ont manifesté pacifiquement hier à Oicha pour exiger la fin des tueries des civils dont des enfants dans la région. Oicha est une commune rurale située à 30 km au nord-est de la ville de Beni. Par cette action, ces enfants disent interpeller les autorités sur l'insécurité qui affecte les enfants dans les territoires de Beni. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Ces enfants, en majorité vêtus de noir, portaient dans leurs mains des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Non au massacre des enfants, non au viol des enfants, non au massacre des civils dans la région de Beni ». Leur marche pacifique est partie du rond-point de Wicha jusqu'au bureau de l'administrateur du territoire de Beni. Sur place, ils ont déposé un mémorandum dans lequel ils interpellent les autorités sur l'insécurité qui affectait les enfants dans la région de Beni. Le lundi 23 octobre dernier, 27 civils, parmi lesquels 12 enfants dont l'âge varie entre 8 mois et 15 ans, ont été tués dans une attaque des rebelles des ADF à Oicha. Depuis, les cours n'ont jamais repris dans toutes les écoles de cette commune rurale. Selon des sources officielles, une délégation gouvernementale est attendue la semaine prochaine à Oicha pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans la région. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et dans les provinces du Bas-Uele et de la Tchopo, le programme de coopération RDC et l'UNICEF réalisé plus ou moins à 80% au cours de l'exercice 2023. C'est ce qui ressort de la revue annuelle de cet exercice organisé à Kisangani du 2 au 3 novembre courant. Cette évaluation a connu la participation des structures étatiques impliquées dans ce programme, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF. Un reportage signé Jacques Mukonkole.
Cette évaluation concerne notamment les secteurs de la santé, l'éducation, la protection des enfants, la planification, le suivi et l'évaluation, ainsi que la communication. Si l'ensemble des activités ont bien tourné, celles relatives à la communication et à la protection des enfants ont plutôt connu d'énormes difficultés, comme l'explique Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan.
Dans les Bas-Uele, ils n'ont pas eu suffisamment de fonds puisque, imaginez-vous que toute l'année 2023, le Bas-Uele n'a bénéficié que de 1 580 $ américains. Ce qui n'a pas permis enfin que les choses puissent aller normalement. Ainsi que là, il y a eu certaines activités qui n'ont pas vraiment conduit à l'air ici. Et c'est ce qui a fait que cela puisse tirer vers le bas les résultats de nos deux provinces.
De son côté, Maître Koko Misingi, un des participants et coordonnateur de l'ONG Careo, plaide pour le renforcement de la justice, aussi bien à Bouta qu'à Kisangani, afin de mieux assurer la protection des enfants.
Ce qui est très important, c'est de voir par quel mécanisme affecter des magistrats à Bouta, mais aussi d'ajouter le nombre de juges dans la province de la Tchopo, particulièrement dans la ville de Kisangani, au tribunal pour enfants.
Des recommandations formulées au terme de ces assises figurent notamment celles relatives à un appui substantiel de l'UNICEF pour la mise en œuvre convenable de ce programme. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, inauguration vendredi dernier à Mbujimayi de la première usine de production d'oxygène médical. Cette infrastructure d'une capacité de 50 cylindres de 50 litres par jour est construite par l'initiative Clinton pour l'accès à la santé avec le financement de UNITAID, une organisation internationale d'achat des médicaments. La cérémonie d'inauguration de cette usine a été présidée par le vice-ministre de la Santé dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Bonzola en présence du gouverneur des provinces intérimaires. Des explications avec Esther Ndalafina.
Cette première usine de production d'oxygène médical est construite dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Bonzola. Docteur Bonheur Chitekou, chef de division provinciale de la santé, a défini l'oxygène médical comme étant un gaz incolore, inodore et limpide. Il est essentiel et permet de sauver des vies.
Elle va plutôt durablement soutenir et améliorer la prise en charge de tout patient dont la pathologie nécessite les recours à l'oxygène médical.
Le directeur pays de Tchèque a donné le coût global de ce projet.
D'une valeur totale de $437,625, une capacité de production journalière de 50 cylindres, de 50 litres pour 8 heures de fonctionnement, avec une pureté de 96%.
Docteur Serge-Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a demandé à toute la population de bien protéger ce bijou.
Je voudrais donc prier la population à veiller sur cette usine. C'est un bijou, quelqu'un a dit avant moi, l'eau c'est la vie, mais moi je dirais sans oxygène, il n'y a pas de vie.
Signalons que l'analyse situationnelle réalisée en 2022 a révélé que le Kasaï Oriental disposait de 14 concentrateurs d'oxygène disséminés dans 5 établissements de soins, dont 3 en panne. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Par ailleurs, ANSER, Agence nationale des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains, s'engage à accompagner la mise en œuvre de la politique de décentralisation en faveur des entités territoriales décentralisées et TD par l'électrification rurale susceptible de contribuer au développement à la base. Cette initiative a été portée auprès du ministre d'État en charge de la décentralisation et des réformes institutionnelles, Maître Eustache Mouanzi, hier par une délégation de l'ANSER conduite par le DGA, Damien et Toambi Langana. À travers un plan de développement socio-économique local, cette initiative tient à l'affectation effective de la quotité au développement communautaire des ETD provenant de la redevance minière et de la Caisse nationale des péréquations. Suivez les explications du DGA d'ANSER, Damien Toambi Langana, que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Son Excellence, Monsieur le Ministre, avait initié une vision sur le développement des ETD, sur des stratégies qui peuvent permettre de mobiliser des moyens pour pouvoir amener le développement dans les ETD, mais en se basant sur des plans locaux de développement qui sont clairs et précis. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de choses en commun par rapport à notre projet, la manière dont on fonctionne, les projets que nous implémentons dans ces zones. Et on a trouvé utile de l'approcher, discuter un peu sur sa vision et voir comment est-ce qu'on peut articuler ensemble des stratégies pour l'évolution, en tout cas le développement de nos ETD.
Il s'est dénoté qu'un protocole d'accord sera signé dans les jours à venir entre le ministère des décentralisations et l'ANSER, avec pour une ultime mission de fixer les objectifs précis et de définir les stratégies y afférentes en vue de permettre à ANSER d'apporter son expertise technique dans les projets ambitieux de l'électrification rurale et de la planification du développement socio-économique qui en découle. Cette autre nouvelle, après le dépôt et la programmation au calendrier au Parlement du projet de loi sur la nationalité congolaise dite loi Tchani, son auteur Noël Tchani a présenté au public hier samedi son ouvrage intitulé « Des pères et des mères, quel avenir pour la RDC ?» Préfacé par les députés nationaux porteurs de la dite loi au Parlement Singi Pouloulou, le livre de Noël Tchani a connu son vernissage samedi. Ouvrage de 151 pages, le préfacier et l'auteur demandent aux lecteurs et à tous les Congolais en général de s'en imprégner pour partager les contenus, gages de patriotisme et de sauvegarde de la souveraineté de la RDC. Billy Van Lutumba nous fait part des grandes lignes de ces livres tels que présentés par l'auteur et le préfacier.
Dans 45 minutes, Singi Pouloulou, préfacier du livre, insiste sur l'utilité d'un tel ouvrage dans les bibliothèques et têtes de tout Congolais.
En dehors de la loi, mais écrire un livre pour permettre aux autres de comprendre ce dont nous sommes en train de nous battre. Appropriez-vous de ces livres, appropriez-vous de ces concepts. Personne ne peut aider ce pays seul.
Quelle démarcation entre le livre et la loi déjà déposée au Parlement, Noël Tchani?
On a ajouté à cela une étude comparative avec d'autres pays du monde pour montrer que le Congo n'est pas seul à aller sur cette voie-là. Le Gabon l'a annoncé tout récemment, la Tunisie, la Zambie, des pays en Amérique latine, en Asie. ont déjà adopté donc ce genre de loi. Donc le Congo est d'ailleurs en retard. Nous devons faire vite pour que l'Assemblée nationale adopte cette loi, pour qu'elle devienne la loi de la terre, qu'elle puisse désormais définir les règles de qui peut accéder à ces fonctions de souveraineté et particulièrement la présidence de la République.
De père et de mère, quel avenir pour la RDC? L'ouvrage de Noël Tchani est disponible à la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs sur boulevard du 30 juin ici à Kinshasa à $30.
Actualité internationale.
Plus de 30 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans un bombardement israélien contre le camp des réfugiés de Maghazi samedi soir dans le centre de la bande de Gaza, annonce le ministère de la Santé du Hamas. La majorité des victimes sont des enfants et des femmes, ajoute le ministère sur Telegram, affirmant que des maisons ont été directement ciblées et touchées par une frappe aérienne.
L'invité.
C'est Serge Ndjibungoy, haut conseiller de la République et rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Ce dernier a fini sa mission au Maniema où il a vulgarisé les directives sur la campagne électorale et les codes de bonne conduite en période électorale aux acteurs sociopolitiques, professionnels des médias et notables de cette province. Serge Ndjibungoy s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Serge Ndjibou, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les directives que vous venez de vulgariser aux acteurs sociopolitiques, le professionnel des médias et notables de la province?
J'ai vulgarisé les directives relatives à la campagne électorale, mais aussi le code de bonne conduite des acteurs sociopolitiques et professionnels des médias en période électorale. Comme vous le savez, le CESAC, en tant que pouvoir organisateur de la campagne électorale à travers les médias, édicte toujours des règles à observer en période électorale. Et cela se fonde sur l'article 16 de la loi organique numéro 11/01 du 10 janvier 2011. Et toutes ces règles voudraient que les Congolais puissent vivre la campagne électorale comme une fête dans laquelle chaque Congolaise et chaque Congolais vient exprimer sa voix pour déterminer le devenir du pays et qu'elle ne soit pas vécue comme un moment de trouble, d'agitation inutile, un moment de déchirement du tissu social.
Toutes ces directives sont assorties des sanctions. Est-ce que CESAC a des moniteurs pour surveiller la mise en application de ces directives, étant donné que les coordinations provinciales de CESAC ont de sérieux problèmes de fonctionnement?
Exactement. Toutes ces directives sont assorties des sanctions. Tous ceux des acteurs politiques ou des professionnels des médias qui ne s'accorderont pas ou qui ne suivront pas ces règles-là, qui ne les respecteront pas, s'exposent évidemment à des sanctions sévères. S'agissant des coordinations provinciales du CESAC, nous avons déjà travaillé à leur renforcement et je suis d'ailleurs heureux d'annoncer que d'ici le 13 de ces mois, tous les coordonnateurs provinciaux et certains de leurs membres seront appelés à Kinshasa pour une formation afin de mettre à jour leur capacité opérationnelle dans ces secteurs-là. Évidemment, nous faisons face à certaines difficultés financières et logistiques pour pouvoir procéder à l'installation effective de toutes les coordinations provinciales. Et la mise en place est déjà faite, au moins sur papier. Nous continuons à travailler avec le gouvernement pour obtenir les moyens qu'il faut pour que dans chacune des 26 provinces de la RDC soit installée une coordination provinciale et une antenne dans les autres villes où il y a une forte concentration des médias. S'agissant du suivi de toutes les directives que nous venons de vulgariser à travers la République, il y aura évidemment le déploiement, bien avant la campagne électorale, une semaine avant, il y aura le déploiement de ce qu'on appelle CVM, c'est-à-dire Commission de Vigilance et d'Éthique Électorale. Et ces commissions-là seront dans chaque province, sont composées d'un haut conseiller du CESAC, d'un procureur général de la République et bien d'autres membres qui vont s'atteler à suivre exactement si les acteurs politiques se comportent correctement selon les directives qui sont édictées pour la période électorale.
Dans votre adresse, vous avez appelé les professionnels des médias dont leur nom figure sur les listes définitives de la CENI de cesser immédiatement d'exercer la profession de journaliste.
Exactement. L'assemblée plénière du CESAC a décidé comme ça qu'il y a même une directive qui a été prise à cet égard, qui est en pleine vulgarisation aussi. Tous les journalistes, dit bien, dont les noms ont été retenus sur les listes définitives de la CENI comme candidat à une quelconque élection, doivent cesser immédiatement d'exercer en tant que journalistes. Parce qu'ils ne peuvent pas être juges et partis, ils doivent écrire des lettres de mise en disponibilité et on ne devrait plus les écouter sur les antennes de radio ni les voir sur les plateaux de télévision.
Et pour la campagne électorale des candidats présidents de la République, aux médias qui seront retenus, qui va subventionner ces médias et ça sera quand?
D'abord, il faut reconnaître que la campagne électorale à travers les médias pour les candidats présidents de la République sont l'œuvre du CESAC, mais CESAC utilise le média du secteur public, c'est-à-dire la RTNC et l'ACP. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de candidats et aussi que la RTNC ne devrait pas être seule dans cette activité, le CESAC décide toujours, à chaque cycle électoral, de choisir certains médias qui répondent à certains critères qui sont établis pour suppléer à la RTNC dans cette activité-là. Et cela s'est fait sous la charge du Trésor public. Alors, quant à savoir, c'est avant que ces médias-là recevront les subventions, ou c'est pendant, ou c'est après, en tout cas, nous avons déjà travaillé le dossier relatif à ça. Ça peut venir avant, pendant, ou ça peut venir après. Ce qui est sûr, c'est que ça viendra.
Merci.
Le rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a été interrogé par Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu. Voilà qui met fin à ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rungmushins. Alain Goy a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi vous a présenté cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix.